Voilà, donc je continue mon parcours de l'évangile de Marc. J'ai intitulé mon message « Le Dieu de l'impossible ». On va continuer dans le chapitre 6 de l'évangile de Marc, à partir de là où on s'était arrêté la fois dernière, à partir du verset 30. Et je vais le lire en deux fois, donc je vais lire du verset 30 jusqu'au verset 40, puis je reprendrai donc après, un peu plus tard, pour la suite. Voilà, donc je vais prier. Seigneur, merci encore pour ta parole, je te remets ce message. Je prie, Seigneur, que tu nous disposes chacun, Seigneur, que tu m'aides à le dispenser. Je me repose entièrement sur toi et Seigneur, que tu sois aussi avec chacun de ton Église pour le recevoir, Seigneur, pour recevoir ce que tu as à lui dire personnellement et vivre, Seigneur, ta parole dans la vérité et le vivre dans sa vie, Seigneur. En Jésus-Christ. Amen. Donc Marc 6, à partir du verset 30 jusqu'au verset 40. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car beaucoup de personnes allaient et venaient et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança là où ils se rendaient. Marc 6, 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et le donnerons-nous à manger ?» Et leur donnerons-nous à manger ? Et il leur répondit « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en informèrent et répondirent « 5 et 2 poissons. » Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu pour le moment. La vérité que j'ai ressortie de ce texte, et qui ressort aussi du texte suivant, c'est que l'obéissance rend possible l'impossible. L'obéissance rend possible l'impossible. Premièrement, c'est ce que nous allons voir là dans mon premier point, l'obéissance rend possible l'impossible lorsque nous apportons au Seigneur nos faibles ressources pour qu'il les multiplie. L'obéissance rend possible l'impossible en apportant au Seigneur nos faibles ressources pour qu'il les multiplie. Alors, où est-ce qu'on s'en est arrêté ? Donc la dernière fois, on avait vu que nul n'est prophète en son pays. C'était la grande leçon, la grande vérité à en tirer. Nous avons vu aussi que les miracles sont directement liés à la foi des gens. Les miracles ne sont pas là pour du spectaculaire, mais les miracles sont liés à la foi des gens, de ce que Dieu peut faire. Et puis donc Jésus avait envoyé ses 12 apôtres pour la première fois en mission sans lui. Sans lui. Et c'est au verset 30 que, d'abord qu'ils sont appelés pour la première fois les apôtres, qui veut dire envoyés. Et donc les voilà de retour à Capernaum, les apôtres. Et donc, le texte précédent nous a dit qu'ils ont accompli les mêmes œuvres que leur maître, à savoir prêcher, guérir les malades et chasser les démons. Ils ont accompli les mêmes œuvres que leur maître en l'absence de leur maître. Et certainement, étant donné ce qu'ils ont vécu, qu'ils brûlaient d'envie de le raconter au Seigneur. Ils brûlaient d'envie de raconter ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont enseigné, nous dit le texte. Parce qu'effectivement, leur enseignement allait de pair avec leur vie, avec leurs œuvres. Et c'est un bon exemple pour nous. Si nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu, nous allons le vivre. Et nous serons aussi mieux à même de partager la parole de Dieu. Et est-ce que concrètement, à la fin d'une journée de travail, à la fin d'une journée de travail, qu'on travaille dans une œuvre missionnaire ou pas, est-ce qu'on raconte à Jésus notre journée, comment s'est passée notre journée? Est-ce que vous avez cette habitude de raconter à la fin de chaque journée comment s'est passée votre journée? Parce que je crois d'une part que Dieu prend plaisir à ce qu'on lui dise comment s'est passée notre journée, à la fin de chaque jour. Et d'autre part, à nous, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien de raconter à Jésus notre journée. Parce qu'on est dans un monde où les choses vont de plus en plus vite. Les choses s'enchaînent si vite qu'on a besoin de quoi? On a besoin de couper avec les écrans. On a besoin de s'arrêter. Et on a besoin de considérer notre travail après chaque journée pour le rapporter au Seigneur dans la prière. Alors il le sait ce qu'on a fait. Mais il aime ça, je crois. Et nous, ça nous fait du bien. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, quand il a créé le monde en 6 jours, à la fin de chaque journée, j'ai vérifié, sauf le deuxième, Dieu a considéré ce qu'il a fait. Et il est écrit, Dieu vit que cela était bon. Il a considéré son œuvre. Et le 6e jour, lorsqu'il avait fini de sa création, par nous, par l'homme et la femme, eh bien, il a exprimé ceci. Il a dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il était satisfait de son œuvre. Et puis, qu'est-ce qui s'est-il passé? Lui qui ne se fatigue jamais, le 7e jour, il s'est reposé. Il s'est reposé. Ce récit, c'est pour nous. C'est pour nous donner le meilleur exemple qui soit, comment vivre chacune de nos journées, chacune de nos semaines. De considérer notre travail à la fin de chaque journée. Alors oui, les disciples, les apôtres, ils ont accompli des choses extraordinaires. Et malgré cela, est-ce qu'ils n'avaient pas besoin de repos? On se dit, mais on peut se dire ça. Mais non, ce n'est pas ce que leur a dit Jésus. Malgré les choses extraordinaires qu'ils avaient accomplies, cela n'enlève rien au fait qu'ils avaient besoin de repos. Jésus le sait et il leur recommande de prendre un peu de repos. De prendre un peu de repos à l'écart des foules et avec lui. Voilà. Là aussi, j'aimerais m'arrêter un peu sur le repos. Qu'est-ce que c'est le repos, hein? Plusieurs remarques à partir de là. Cette exhortation de Jésus, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Quand est-ce que Jésus a fait cette exhortation? Après que les apôtres avaient travaillé pour lui. Ils sont revenus avec plein de choses à lui raconter. Et ce n'est qu'après leurs œuvres que là, Jésus leur a exhorté à prendre du repos. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas besoin de repos. Nous sommes dans un corps limité et nous en avons besoin. Mais on remarque que Jésus exhorte ses apôtres à en prendre après qu'ils aient travaillé pour lui. Et puis aussi, il y a un petit mot, un peu de repos. Il ne s'agit pas de passer toute sa vie dans le repos, hein, et d'ailleurs on s'ennuierait vite. Un peu de repos, et ça devrait suffire. Mais surtout, il s'agit d'un repos à prendre avec le Seigneur. Quand on part en vacances, comment est-ce qu'on considère les vacances? Est-ce que on est en vacances de l'Église, on est en vacances des rencontres de prière? Le repos, c'est avec le Seigneur. C'est toujours avec le Seigneur. Et aussi, le repos se prend où? À l'écart du monde. À l'écart du monde, de l'agitation de nos smartphones. Dans notre société, après une bonne journée de travail, notre premier réflexe, si vous en avez une, c'est quoi? C'est de s'asseoir sur le canapé et de regarder la télé. N'est-ce pas? Nous-mêmes, on le fait, hein, parfois. Mais honnêtement, est-ce que la télé vous apporte du repos? Le repos tant désiré. Alors, ça dépend des émissions. Il y a des émissions très intéressantes où on apprend des choses. Il y en a d'autres où ça fatigue. Vous savez, la télé, elle part tout le temps, elle ne s'arrête jamais. La terre n'est pas un lieu de repos à cause du péché. Et le péché, ça fatigue, ça épuise, c'est fatigant. Voici ce que dit Michée, chapitre 2, verset 10. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos à cause de la souillure. Il y aura des douleurs violentes. La terre n'est pas un lieu de repos. Le vrai repos, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve en Jésus seul. Parce qu'il a porté notre péché, le péché qui nous fatigue tellement. Il a pris notre péché à la croix. Voilà donc les disciples qui sont partis se reposer. Ils ont obéi à Jésus. Hein. Jésus leur a dit de se reposer. Ils sont partis avec Jésus dans un lieu désert à l'écart pour se reposer. Ils lui ont obéi. Que va-t-il se passer? Eh bien, ce repos va être de courte durée, en apparence. Quelque chose va contrecarrer le repos des apôtres. La foule les a vus monter dans la barque. Et qu'est-ce que va faire la foule? La foule va les précéder dans le lieu désert où ils se rendaient avec Jésus. La journée, elle était donc loin d'être terminée pour Jésus et les apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont pensé en voyant toute cette foule? Qu'est-ce que vous auriez pensé si vous aviez été là? Peut-être, c'est bien, mais ils peuvent bien attendre demain, ils peuvent revenir demain. Nous, on a besoin de se reposer, on n'a pas mangé. Mais qu'a fait Jésus? Jésus, lui, il a accueilli cette foule. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par quoi? Il a commencé par les enseigner. Et les enseigner longuement, nous dit le texte. Qu'est-ce qui motivait Jésus à agir ainsi? Il a vu une foule. Qu'est-ce qui le motivait? Eh bien, le texte nous dit qu'il en eut compassion. Il en eut compassion. Il les voit comme des brebis qui n'ont pas de berger. Pourquoi Jésus a-t-il accueilli cette foule? Tout simplement parce qu'il les aimait. C'est son amour pour les gens qui passait avant ses propres besoins humains. Et avant ceux des disciples aussi. Et c'était son amour pour les gens qui était plus fort que sa fatigue. Et c'est certainement son amour pour les gens qui lui a donné la force de continuer de travailler. Hormis le fait qu'il était Dieu le Fils. Jésus, donc, par amour, va répondre à leur premier besoin. Et leur premier besoin, c'est quoi? C'est d'entendre la parole de Dieu, qui est prioritaire sur les besoins physiques. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur importance. Mais en tout cas, Jésus a dit en Matthieu 4,4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est prioritaire, même sur nos besoins physiques. Est-ce que ça veut dire pour autant que Jésus ignore nos besoins physiques, notre corps? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Est-ce qu'il ignore le fait qu'on a besoin de manger, de se reposer? Non. Peut-être les apôtres ont pensé, en tout cas, on peut interpréter leur situation. Écoute, Jésus, nous sommes fatigués, on n'a même pas eu le temps de manger, il est tard, on est au milieu de nulle part. Et est-ce que tu as bien vu, ils sont des milliers, et eux aussi, ils ont faim. Et il faudrait au moins le salaire journalier de 200 ouvriers pour nourrir une telle foule. Où trouver cette somme? Et où est-ce qu'on va trouver une boulangerie pour leur donner à manger? Impossible. Sur quoi Jésus? Eh bien, il va leur demander d'aller voir. Il le sait, mais il va demander d'aller voir de combien de pain ils disposent. Et les disciples, ils obéissent. Ils ne comprennent pas tout, mais ils obéissent. Ils obéissent malgré tout. Ils vont voir. Et ils reviennent avec seulement 5 pains et 2 poissons. Jésus continue de donner des instructions à ses apôtres. Prochaine instruction, c'est faites-les asseoir. Tous asseoir. Toute la foule, par petits groupes. Par petits groupes, de cette manière-là, on n'oubliera personne. Par petits groupes, on identifie, tout le monde est on n'oublie personne. Et puis par petits groupes, tout se fera avec ordre. Et pour ça, il fallait que la foule obéisse. Imaginez, moi je fais ce que je veux, ça aurait été plus compliqué pour les apôtres. Non, ils vont obéir. Qu'allait bien pouvoir faire Jésus avec seulement 5 pains et 2 poissons? Mais les apôtres vont encore obéir. Oh, ils sont loin d'avoir tout compris, mais ils vont obéir. Ils vont faire asseoir les gens par rangée de 50 et par rangée de 100. Et les gens font effectivement s'exécuter. Alors là, les apôtres, ils sont mis à l'épreuve. Alors on peut leur reconnaître, certainement, ils n'ont pas tout compris, 5 pains de poisson, mais ils sont mis à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de vivre quelque chose d'extraordinaire sans leur maître, sans Jésus, quelque temps auparavant. Et ils vont être mis à l'épreuve, là. Auparavant, ils ont fait des œuvres extraordinaires sans Jésus. Maintenant, ils sont avec Jésus. Au cas où ça aurait été facile d'être grisé par le succès et de tomber dans l'orgueil. Et là, c'est comme s'il leur était demandé, vous avez fait tout ça sans Jésus, et bien maintenant, montrez ce que vous savez faire avec Jésus. Le Seigneur est présent avec vous cette fois. Quel défi! Ils vont obéir. Ils vont faire leur part, ils vont obéir. Et Jésus va faire le reste. Et il va accomplir l'impossible sous leurs yeux et sous les yeux de la foule. Je continue la lecture du verset 41 à 44. Voici ce qui se passe, du chapitre 6 toujours. Il, donc Jésus, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Amen, jusqu'ici. Tous ont obéi dans ce récit. Les disciples, les apôtres ont obéi à Jésus. La foule, toute la foule a obéi aux apôtres. Et tous ont mangé, tous. Dieu a béni l'obéissance. L'obéissance rend possible l'impossible. L'obéissance. Et la multiplication des pains par Jésus, c'est une illustration de ce que Jésus allait faire avec sa propre personne. C'est une illustration de ce qu'allait être le don de sa personne pour nous. Ce récit nous montre que Dieu donne, il donne généreusement selon nos besoins. Il donne du pain à tous, c'est ce qu'il veut. Jésus est Dieu incarné. Il est le pain de vie. C'est comme ça qu'il est appelé dans l'évangile de Jean. Et les gestes de Jésus, là, est-ce que ça ne vous rappelle pas la Sainte Cène? Il prit, il rendit grâce, il rompit et il donna. C'est intéressant, il a rompu le pain. Si le pain n'avait pas été rompu, il n'y en aurait peut-être pas eu assez pour tout le monde, si on avait donné des pains entiers. Mais là, il a été rompu pour qu'il y en ait assez pour les 5000 personnes. Le corps de Jésus sera brisé pour nous, rompu, pour nous nourrir de sa vie, pour nourrir de sa vie tous ceux qui croiraient en lui, en tout lieu, à toute époque. Jésus, le pain de vie. Le pain de vie, Jésus ne manque jamais. Il est suffisant pour nourrir le monde entier. Il est le pain qui rassasie pleinement l'âme, quotidiennement. Donne-nous chaque jour notre pain de ce jour, dans la prière du Notre Père. Il veut nous nourrir quotidiennement. Il rassasie l'âme pleinement et il nous nourrit même au-delà pour nourrir les autres. Vous avez remarqué combien de paniers il restait? 12 paniers. Combien d'apôtres? 12. Chaque apôtre avait de quoi emporter avec lui un panier pour subvenir à ses besoins. Alors certainement que les apôtres, là, ils n'avaient plus à s'inquiéter pour leur nourriture, leur subsistance. C'était une leçon supplémentaire qu'ils ont appris avec Jésus. Pas de gaspillage avec le Seigneur. Pas de gaspillage. Il veut utiliser tout ce que nous avons. Et nous? Eh bien, si vous nourrissez les autres, vous serez aussi nourris. Si vous donnez du repos aux autres, vous serez vous-même dans le repos. Et comment nourrir les autres et donner du repos aux autres? En leur partageant l'évangile, la parole de Dieu. Cette demande du Seigneur, donnez-leur vous-même à manger, s'adresse aussi à l'Église pour nourrir le monde avec la parole de Dieu. Ça s'adresse à nous. Est-ce qu'on se croit, est-ce qu'on se considère à la hauteur? La tâche est immense. Déjà, nous, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là-bas, à l'école du dimanche. On n'est même pas une douzaine. Oui, on n'est même pas une quinzaine. Je ne sais pas compter exactement. Et pourtant, l'Église se considère parfois impuissante face à l'ampleur de la tâche d'évangéliser. Mais avant de donner, bien, nous avons besoin de recevoir du Seigneur. Et nous, avant de nous donner au Seigneur, eh bien, nous avons besoin d'être rompus. Nous avons besoin d'être brisés. C'est-à-dire, ne plus compter sur nous-mêmes, sur notre propre force. Rompus, brisés dans le sens de ne pas compter sur nous-mêmes, mais de compter sur le Seigneur. Le Seigneur qui a commencé par donner le pain rompu aux disciples qui ont donné le pain à la foule. Les disciples ont d'abord reçu du Seigneur pour le donner ensuite à la foule. Mais ils avaient encore besoin d'être brisés, les disciples. On va le voir. Les besoins du monde entier seraient satisfaits et le monde entier serait évangélisé si nous mettions à la disposition du Seigneur nos maigres ressources, le peu que nous avons. Et comme les apôtres, eh bien, le Seigneur veut qu'on commence par quoi faire ? Allez voir, comptez ce que vous avez. Il veut qu'on commence par compter ce que nous avons à notre disposition, puis de faire avec ce que nous avons. Aussi insignifiant que cela nous paraisse. Alors, consacrons-lui ce que nous avons, après avoir considéré ce que nous avons. Faisons l'inventaire de ce que nous avons. Consacrons-lui ce que nous avons et demandons-lui la bénédiction sur ce que nous avons pour qu'il puisse le multiplier. 5000, c'est un multiple de 5 et de 2. Il a fait une multiplication, là, Jésus. Il n'a pas fait une addition, il a fait une multiplication. Jésus a été capable de nourrir 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons, qu'il a multipliés. Alors j'aimerais te poser une question. Quels sont tes 5 et tes 2 que tu peux consacrer au Seigneur pour qu'il les multiplie? Alors on pense tout de suite à nos deux mains. Nous avons 5 doigts dans chaque main et nous avons 2 mains. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Qu'est-ce que tu sais le mieux faire avec tes mains? Soigner quelqu'un? Écrire des textes qui vont faire du bien? Laver? Coudre? Jouer d'un instrument? Faire la cuisine? Il y a tant d'autres choses. Taper sur l'ordinateur? Fais l'inventaire de ce que tu as et consacre-le au Seigneur. Et il le multipliera. L'obéissance rend possible l'impossible. Je continue ma lecture. On reprend à partir du verset 45 et je lirai jusqu'au verset 56, du chapitre 6 donc. Donc, Marc 6, 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut pris congé d'elle, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils furent troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta auprès d'eux dans la barque, et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir achevé leur traversée, ils arrivèrent dans le pays de Génézaret, et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent aussitôt Jésus. Parcoururent toute la région et se mirent à apporter des malades sur des grabats, partout où l'on apprenait qu'il était. Partout où il entrait, village, ville ou campagne, on mettait des malades sur les places publiques et on le suppliait afin de toucher seulement la frange de son vêtement. Et tout ce qui le touchait était délivré. Amen. Jusqu'ici. Donc la parole de Dieu. Mon deuxième point, c'est que l'obéissance rend possible l'impossible. Comment ? En nous assurant de la présence du Seigneur. Constante dans les difficultés et bien sûr dans les joies. L'obéissance rend possible l'impossible en nous assurant de la présence du Seigneur dans les difficultés. La foule a été nourrie, Jésus renvoie les foules pour éviter quoi ? Qu'elles ne le fassent roi. Ce n'était pas le moment encore, il n'était pas encore passé à la croix. Et il y a un mot qui m'a surpris, il a obligé ses disciples à monter dans la barque pour passer sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui montrait sur la montagne pour prier. Alors, si le Seigneur les y a obligés, ben, c'est qu'ils n'en avaient pas forcément envie. Et puis, il peut y avoir différentes raisons. Il peut y avoir la météo qui était menaçante. Et peut-être aussi, d'y aller sans le Seigneur. Ils n'étaient pas rassurés. Toujours est-il qu'ils ont encore obéi. Ils vont monter sur la barque, Jésus va monter sur la montagne pour prier. Et l'épisode qui va suivre, peut-être ça vous rappelle un autre récit qu'on a vu toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 4 et 5. Beaucoup de similitudes. Si vous vous rappelez, Jésus avait traversé ce même lac de Galilée avec ses disciples pour aller au même endroit, de l'autre côté, au pays, en pays païen, chez les Gadaréniens. Et là, que s'est-il passé, si vous vous en rappelez? Jésus était passé sur l'autre rive pour aller délivrer un démoniaque. Et que s'est-il passé lors de la traversée? Alors, Jésus était avec eux. Là, il n'est pas avec eux. Jésus était avec eux dans la barque, et lors de la traversée, ils avaient dû déjà essuyer une forte tempête dans ce premier récit. Ils avaient dû déjà essuyer une tempête. Et Jésus leur a montré quoi? Qu'il avait le pouvoir sur les éléments, sur le vent, sur la mer. D'une simple parole, silence, tais-toi, la mer s'est calmée, le vent s'est tu. Jésus leur a montré qu'il avait pouvoir sur les éléments, et pour cause, il en est le Créateur. Il est le Fils de Dieu. C'était la grande leçon qu'il avait donnée à ses disciples, à ces apôtres-là. Est-ce qu'ils avaient compris la leçon? Là, on est à peu près dans le même schéma. Pas tout à fait. Jésus n'est pas avec eux. Là, Jésus les a obligés à passer sur l'autre rive, mais cette fois sans lui. Et puis de nouveau, voilà qu'une tempête s'abat sur eux. Un vent fort, nous dit le texte, qui leur était contraire, se met à souffler. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils doivent ramer. Et ils doivent ramer dur, parce que le vent leur est contraire. Ils doivent faire face à l'opposition du vent. Sans lui, il n'est pas là. Mais si Jésus les a obligés à monter dans la barque, les nuages devaient être très menaçants, c'est qu'ils pouvaient y arriver, même sans lui, physiquement. Mais ils devaient comprendre que ce n'est pas par leur propre force qu'ils pouvaient y arriver. Ils avaient besoin d'être brisés, comme le pain que Jésus a brisé. Parce que la tentation était grande de s'attribuer les mérites de leur succès lorsque Jésus les a envoyés deux à deux, en mission, pour la première fois, et sans lui. La tentation était grande, c'est-à-dire, c'est moi qui ai fait tout ça. Non, ils avaient besoin d'être brisés. Il devait apprendre à compter sur lui en toutes circonstances. Et ici, ils rament. Ils comptent sur leur propre force. Ils vont à contre-courant. Il y a une chose qu'ils ont oublié de faire, parce que le texte ne le dit pas. Une chose très importante qu'ils ont oublié de faire. Une chose que Jésus lui-même a faite. Et si lui l'a faite, c'est qu'à plus forte raison, ils en avaient besoin, et nous aussi. Quand ils ont oublié de faire, ils ont oublié de prier. Ils ont oublié de prier. Alors que Jésus, lui, il est monté sur la montagne pour prier, le Fils de Dieu. Et nous, et toi, combien de fois avons-nous ramé à contre-courant face à des difficultés, face à l'opposition? Combien de fois avons-nous ramé à contre-courant en oubliant quoi? Ça semble tellement évident, mais combien de fois nous le faisons en oubliant de prier? Parce que nous comptions sur nos propres forces, sur nos capacités, sur nos expériences du passé. Eux, ils ont perdu Jésus de vue. Mais Jésus, est-ce qu'il les a perdus de vue? Non. Il ne les a pas perdus de vue et il les voit ramer. Mais il ne va pas se précipiter. Il va aller vers eux, pas avant la fin de la nuit, c'est-à-dire vers 3h du matin, la quatrième veille. Il a attendu. Pourquoi est-ce qu'il a attendu si longtemps? Eh bien, là encore, c'était pour les mettre à l'épreuve. Après, ils venaient de vivre un miracle, ils venaient de le voir de leurs propres yeux, ils venaient de vivre le miracle de la multiplication des pains. Et là, eh bien, ils ne s'attendaient pas à le voir. Ils ne s'attendaient pas à le voir, ils pensaient que c'était un fantôme, mais imaginez la scène. Quelqu'un qui marche sur l'eau, qui va très vite, qui n'est même pas freiné par le vent. Oui, ils avaient peur. Mais ils venaient de vivre quelque chose d'extraordinaire juste avant. Et ce n'était pas une illusion, parce que le texte nous dit qu'ils le voyaient tous. Donc là, c'était une réalité. Jésus, effectivement, marchait sur l'eau. Mais quand même, marcher sur l'eau, bon d'accord, c'était un miracle. On n'en a pas vu encore, moi j'en ai jamais vu, je ne sais pas vous, voir quelqu'un marcher sur l'eau. Mais, Mais quand même, est-ce que ce miracle était un miracle plus grand que la multiplication des pains dont ils ont été témoins? Non, c'était un autre miracle. Ils avaient été témoins là de ce que Jésus peut faire. Ils avaient vécu des choses sans Jésus, ils avaient fait des prodiges là, ils sont en difficulté sans Jésus. Malgré ces deux miracles, multiplication des pains et voir Jésus sur l'eau, bien, ils ne croyaient pas. Pourquoi ? Eh bien, le texte nous dit la raison, parce que leur cœur était endurci. Endurci. Ils ne croyaient pas que Jésus veillait sur eux en tout temps, qu'il ne les quittait pas d'une semaine, on peut dire, qu'il ne les quittait pas un instant, qu'il ne les quittait pas des yeux, il les voyait, parce qu'il les aime, parce qu'il nous aime. Comme il a eu compassion de la foule, comme il a compassion de nous tous, ses enfants, et comme il ne nous quitte pas des yeux. Alors, eh bien, Jésus marche sur l'eau, il est hors de la barque, et là, contrairement au premier récit, où il avait parlé au vent et à la mer, là, il ne parle pas aux éléments, il va parler aux disciples, aux apôtres, pour les rassurer. Il va leur donner une parole. Verset 50, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et là, il monte avec eux dans la barque. Et tout redevient calme. Le Seigneur voit tes difficultés, les difficultés par lesquelles tu passes. Un vent contraire, qui peut-être par qui tu te sens dépassé. Il voit nos peurs, lorsque nous rencontrons de l'opposition grandissante. L'Église subit une opposition grandissante. Il n'y a qu'à lire les rapports de porte ouverte sur nos frères et sœurs persécutés dans le monde. Il voit l'opposition sur son Église et sur ceux qui veulent lui obéir. Mais par ce récit, il veut nous encourager et nous rassurer et nous assurer de sa présence constante. Et surtout, il revient bientôt pour nous mener au port céleste, notre destination finale. Il nous y mènera, le port céleste. En attendant, eh bien voilà, les apôtres, ils accostent, ça y est, ils accostent sur le rivage. Je m'en réfère encore au récit d'avant, dans le chapitre 5. Est-ce que vous vous rappelez, Jésus donc était venu pour délivrer ce démoniaque. Il a envoyé les démons dans les ports, les pourceaux qui se sont jetés du haut de la falaise. Et là, les habitants de cette même contrée, ils ont eu peur. Et ils ont demandé ils ont demandé à Jésus de quitter leur territoire. Ils avaient été témoins d'une délivrance, et au lieu de se réjouir, pars, va-t'en. Ça leur avait coûté cher, leur troupeau de porcs. Mais avant de partir, avant de remonter sur la barque, Jésus avait dit à l'homme qu'il avait délivré de ses démons de ne pas rester avec lui, mais d'aller témoigner auprès de sa famille de ce que Jésus lui a fait. Et Jésus, il a fait plus que ça. Il est parti, le texte nous dit qu'il est parti témoigner à toute la décapole, aux 10 villes de la région. Un seul homme a témoigné dans toute la décapole, chapitre 5. Ici, Jésus accoste avec ses disciples. Mais quel changement ! Quel changement ! Les gens attendaient Jésus. Ils l'ont reconnu. Après l'avoir méconnu, ils l'ont reconnu. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent à lui pour être guéris. Grâce au témoignage d'un seul homme de l'ancien possédé. Jésus ici n'a pas multiplié les pains, il a multiplié le témoignage d'un seul homme qui lui a obéi, qui est allé témoigner. Et toute la contrée a changé. Alors il y a de l'espoir. Alors, je vous invite à aller voir ce que vous avez déjà et consacrez-le au Seigneur, même si ça semble insignifiant. Parce que ce que tu vois n'est rien comparé à ce que Dieu va faire. Attends l'impossible et tu auras l'impossible. Peut-être même que le Seigneur te permettra de voir l'impossible. Tout en obéissant aux instructions de Jésus. L'obéissance rend possible l'impossible. Nous avons avec nous la puissance de Jésus ressuscité pour subvenir à nos besoins et aussi à ceux des autres. et aussi pour vaincre l'opposition. Visiblement ou pas visiblement. Alors parmi nos cinq et nos deux, alors on a nos cinq mains, nos deux mains pardon et nos cinq doigts, il n'y a pas que ça, hein. On a aussi nos deux pieds et nos cinq orteils sur nos deux pieds. Où est-ce que tu peux aller pour annoncer l'évangile, ne serait-ce qu'à une personne, si tu as quelqu'un, si tu penses à quelqu'un. Et qui sait si une seule personne à qui tu vas témoigner ne deviendra pas un évangéliste qui va lui-même amener des milliers de personnes, des milliers de personnes à Jésus. Je vais prier. Seigneur, merci parce que, oui, tu ne regardes pas nos exploits, Seigneur. Et tu ne veux pas qu'on se glorifie de nos exploits lorsqu'on en accomplit. Non, Seigneur, on ne peut rien faire sans toi. Tu l'as dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Seigneur, nous voulons être à tes pieds, recevoir tes instructions et être fidèles, même dans les petites choses. Parce que, Seigneur, c'est toi qui multiplies, Seigneur, nos ressources que nous avons. Aide-nous à considérer ce que nous avons déjà, chacun pour notre part. Ce que nous savons le mieux faire, peut-être qu'il peut paraître insignifiant, mais pas à tes yeux, Seigneur. Parce que toi, tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Aide-nous à nous appuyer sur toi, Seigneur, et oui, à t'obéir, Seigneur, à entendre ta voix. Que nous fassions notre part, et toi, Seigneur, tu... Oui, fais la tienne, Seigneur. Tu la feras, et que tu nous aides à faire la nôtre aussi. Seigneur, merci encore, car tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur, que on s'en rappelle tous les jours de notre vie. Dans les moments de calme, comme dans les moments de tempête, qu'il peut y avoir parfois, qu'on ne se laisse pas effrayer, mais qu'on regarde à toi, Seigneur, qu'on regarde à toi. Merci, Père. Tu connais nos vies à chacun. Merci de nous accompagner durant toute cette semaine et que nous regardions à toi, Seigneur, les yeux fixés sur Jésus. Amen, en ton nom. Thank you.